France Musique.
À samedi prochain, Judith Chen pour de nouvelles émotions lyriques sur France Musique.
France Musique.
Bienvenue dans À l'improviste version nomade ce soir, avec un aperçu de ce qui s'est joué à Paris, dans les murs de l'église Saint-Merry, dans le cadre du festival CRAC, festival dit des musiques affranchies et inclassables.
À l'improviste. Anne Montaron.
À l'improviste au festival CRAC avec le joueur de lithophone Tony Di Napoli. Des pierres sonnantes dans une acoustique résonante, voilà le menu qu'a concocté pour vous ce soir l'équipe d'À l'improviste. Aux manettes, Françoise Cordé, à ses côtés Pascal Bénard et Soizic Noël, mais aussi l'équipe qui a saisi sur le vif la performance de Tony Di Napoli à Saint-Merry, Olivier Berotte, Laurent César et Jean-Pierre Collard. Nous sommes au cœur de Paris, à Saint-Merry, dans cette église ouverte à toutes les formes d'expression artistique et notamment, cela mérite d'être souligné, à la création. C'est là que le pianiste Frédéric Blondy organise à l'année un cycle de concerts baptisé les Rendez-vous contemporains de Saint-Merry. C'est aussi là qu'il anime des ateliers d'improvisation et à ces deux propositions s'ajoute depuis 4 ans le festival baptisé CRAC et qui fait entrer dans ses fissures justement toutes les musiques dites inclassables et notamment les musiques improvisées. Le public du festival CRAC n'a jamais été aussi nombreux qu'en septembre dernier, un vrai succès et une belle récompense pour les organisateurs, dont Frédéric Blondy, mais aussi Louis Laurin et Eglantine de Boissieu, dont la préoccupation essentielle est de faire tomber les cloisons et de réunir des publics souvent spécialisés.
Je pense que un point crucial, c'est cette idée que on a des publics, des gens qui sont assez experts dans un domaine. C'est-à-dire, on peut être amateur de jazz et être très pointu en jazz et faire totalement abstraction des autres genres musicaux. De même, on a ce type de manière de fonctionner sur la musique contemporaine. Et donc, l'idée, effectivement, c'est d'essayer sur les musiques improvisées aussi et de donner la chance quelque part à quelqu'un qui vient pour une raison particulière écouter un concert pendant le festival ou dans le cadre des rendez-vous contemporains, éventuellement de découvrir quelque chose qui, au départ, il n'aurait pas connu parce que ça ne correspond pas au processus de travail ou de création sur lesquels il est référencé, sur lequel il est habitué, mais qui néanmoins, sur le plan sonore, produisent des choses qui ne sont pas éloignées. Et donc là, d'essayer de jouer sur la carte de la découverte, de d'autres manières de faire musique, et c'est assez intéressant de voir effectivement tous les types de croisements, en tout cas au niveau de l'écoute, de la perception qu'on peut trouver sur des processus de création extrêmement différents.
La 4e édition du Festival CRAC a joué le grand écart entre des langages et des univers sonores très différents. La soirée du 23 septembre en est un bon exemple puisque les lithophones purement acoustiques de Tony Di Napoli précédaient un spectacle high-tech de l'Australien Robin Fox, un laser show unique en son genre et qui a transformé l'église Saint-Merry, l'espace de la performance, en gaieté lyrique ou en fondation quartier avec la magie du lieu en plus. Ce que le pianiste Frédéric Blondy aime par-dessus tout chez le joueur de lithophone Tony Di Napoli, c'est que que, finalement, la musique qui jaillit de ces instruments très primitifs est proche, à y regarder de plus près, des musiques électroniques qui se jouent et qui se créent aujourd'hui. La musique de Tony Di Napoli ne ressemble en vrai à aucune autre. Elle se joue des paramètres classiques, c'est un dialogue de la pierre avec la pierre des lithophones et les pierres avec lesquelles on a édifié Saint-Méry. Le regard de Frédéric Blondy.
Il est d'abord avant tout sculpteur, il est devenu musicien par la découverte du son que procuraient ces pierres. Effectivement, là, donc son instrumentarium, il y a une partie avec des grands demi-cercles de pierres et un autre qui ressemble beaucoup à un instrument de clavier, de percussion, avec les lames, comme on les voit sur le marimba. Donc effectivement, avec des proportions différentes qui sont celles des pierres. Et effectivement, on peut s'attendre au départ à ce qu'il les joue de manière plus percussive, comme on jouerait un instrument à clavier. Et voilà, en fait, tout le long de la performance, il ne fait que frotter quelque part ces pierres qui rentrent en résonance. Alors, moi, la première fois que j'ai entendu, j'avais été extrêmement frappé par la dynamique sonore qu'il obtient, sur le volume sonore, l'intensité qui se dégage juste de la vibration de la pierre. On n'a pas l'habitude que sur des gestes, c'est vrai qu'on a l'habitude en musique qu'il y ait une application physique très forte, souvent liée à l'impact, à la frappe, pour obtenir des sons de cette intensité. Et là, juste sur quelque chose qui est de l'ordre du frottement, avoir ce type de dynamique est vraiment impressionnant. Et c'est d'ailleurs d'autant plus penser à de la musique amplifiée ou électronique. Et après, le dispositif, effectivement, de la manière dont ces pierres, ces lames sont accordées les unes par rapport aux autres, fait aussi une musique qui travaille sur des vitesses de battement, sur des accélérations, et on entend vraiment quelque chose de très spectral. Et voilà, c'est un langage bien particulier qui fait effectivement voilà, vraiment beaucoup penser à toute la musique électronique.
Dans le chœur de l'église Saint-Merry à Paris, Tony Di Napoli, musicien-sculpteur, a dressé sur une estrade ses lithophones de grosses pierres lisses posées sur des résonateurs en bois.
Pour ce concert, en fait, j'ai justement utilisé un nouveau clavier, donc de 9 lames, qui était en fait accordé en espace microtonal, donc qui allait du fa un peu plus bas au sol, donc. Et donc c'était des écarts quelquefois en 16e de ton et donc en 9e de ton, quart de ton, et puis donc plus on s'éloignait, plus ça battait vite en fait, voilà.
Oui. Et alors il y avait ces lames effectivement, donc là c'est un type de pierre sonnante, et puis il y avait aussi des demi-lunes et un cercle, je crois.
C'est ça. Donc il y avait donc 9 lames qui font donc 15 cm de largeur sur 2 cm d'épaisseur, donc 2 demi-lunes donc qui font à peu près 1 mètre de longueur. Donc en fait, c'était un cercle qui faisait 1 mètre de diamètre, que j'ai coupé en deux parties, donc inégales, pour avoir 2 notes différentes, donc à peu près ré bémol et ré, et une pierre ronde donc qui elle faisait à peu près 50 cm. C'est un si bémol, voilà, comme note fondamentale.
Et pour les faire chanter, il y a toute une gestuelle, une gestique, qui t'est venue comment ?
Là, c'est plutôt en autodidacte, donc c'est en pratiquant. Voilà, en pratiquant seul, mais aussi avec d'autres musiciens. Donc c'est vraiment des rencontres avec le matériau aussi, et avec les sons. Donc c'est comme c'est un instrument. Donc quand je continue à découvrir, il y a des sons qui sortent. Des fois, je me demande ben, voilà, d'où ça vient.
Donc, le premier
ça,
étonné.
Voilà, c'est ça. Donc, des fois, en concert, il y a un son. Là. Comme ce soir encore, il y a un son qui est sorti. Je me demandais d'où il venait. En fait, donc, c'est aussi qui est dû aussi à l'acoustique du lieu. Donc, il y a certaines harmonies qui sonnent plus que d'autres. Donc, c'est en pratiquant. Donc, c'est une grammaire de gestes. Donc, c'est vrai que le corps, il est assez important dans ma pratique. Donc, le mouvement, la présence. Et c'est vrai qu'à un moment, j'aime ce moment où je ne pense plus, où je suis que mouvement.
Voilà. Il y a des moments aussi où on a le sentiment que tes gestes sont des gestes d'enrobement du son. C'est-à-dire que c'est comme si tu embrassais la pierre sur laquelle tu joues.
Ah oui. Moi, j'ai l'impression que le son m'englobe.
Ah oui.
Voilà, c'est plutôt, j'ai l'impression de nager, d'être dans une matière solide, en fait, un peu plus solide que l'air, et d'être dans cette matière. Donc, c'est plutôt l'impression du son qui m'englobe, en fait, et de bouger là-dedans, cet espace.
Les mouvements, ce sont des mouvements de friction, des moments... Alors, de temps en temps, tu frottes ces pierres avec d'autres pierres, et puis il y a aussi des petits accessoires qui viennent se promener sur les pierres.
Voilà, c'est ça. Donc, j'utilise donc des plus petites pierres, des petits récipients en aluminium, petits récipients en plastique aussi, d'autres pierres... Là, j'avais de la phonolite, par exemple.
Oui.
Donc cette pierre assez longue et voilà, donc c'est tout un vocabulaire que c'est de développer avec, avec différents objets et différentes façons de poser les objets sur la pierre.
Comment est-ce que tu construis une improvisation comme ce soir ? Est-ce que tu la prémédites ou ça vient dans l'instant ?
Voilà, en fait ça vient dans l'instant, je ne me fais pas de plan. Donc c'est le moment où j'accroche avec le son, donc c'est le son en fait qui me guide. Vers les sons qui viennent, donc ça devient presque une évidence, les sons suivants, en fait, voilà, donc c'est ça, je veux pas me faire de plan, parce que, alors je suis pas vraiment dans le son, voilà, je suis plus dans le mental, et là, c'est, pour moi, c'est raté, voilà, c'est un concert raté, enfin, quand on est dans le mental, voilà, ça m'est déjà arrivé, mais voilà, j'essaie vraiment de démarrer le plus...
C'est le son qui te conduit, en fait, tu es agi par le son.
Voilà, c'est ça, c'est le son qui me conduit, et puis les mouvements aussi. Voilà. Donc j'aime ce moment où je ne pense plus. Enfin, je pense, c'est plus que du son. Voilà, on bouge, on fait ça, puis ça, puis ça, puis ça vient tout seul, en fait.
Comme une danse aussi.
Voilà, c'est ça, c'est comme une danse.
Thank you. Improvisation de Tony Di Napoli, joueur de lithophone, dans les murs de l'église Saint-Merry à Paris et pour le public du festival Crac. Tony Di Napoli sait faire chanter les pierres et pour qu'elles chantent comme il faut d'abord les accorder.
Ben là, j'ai appris à accorder les pierres donc, lors d'un voyage au Vietnam donc en 2002, donc, où j'ai séjourné pendant 7 mois, donc, où j'ai étudié en fait, les pierres sonores vietnamiennes, donc les pierres anciennes, mais aussi les pierres contemporaines. Et là, il y a un maître qui m'a appris en fait, à accorder donc, ces pierres à Ho Chi Minh Ville.
Alors, je pense qu'il y a eu aussi un voyage plus antérieur au Népal.
C'est ça, au Népal. Mais là, j'ai plutôt travaillé les arts plastiques. Voilà, pas vraiment. Je ne travaillais pas encore les pierres sonores au Népal. Là, j'ai travaillé plutôt la taille de pierre chez un sculpteur à Patana. Voilà, donc j'ai rencontré. Donc, je suis travaillé 3 semaines dans son atelier avec la pierre du local. Voilà. Donc, j'ai commencé comme sculpteur et puis je voulais savoir le son que faisait la pierre donc, que j'utilisais, mais aussi j'ai vu un instrument vietnamien, justement. Donc un instrument suspendu qui s'appelle le khanda, qui est utilisé comme cloche dans les pagodes bouddhistes. Et donc c'était une exposition en fait, qui venait d'avoir lieu à Paris. Le titre, je pense que c'était « La pierre et l'homme ».
Oui.
Et c'était un article de Geneviève Dourmont sur un instrument suspendu. Donc il y avait cette photo en fait, dans ce catalogue d'exposition. Et puis c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et donc j'utilisais donc en sculpture une pierre qui s'appelle le calcaire de Vignalement et qui est sonore. Voilà. Peut-être que si j'avais... Puis je travaillais une autre pierre, peut-être que j'aurais pas fait... Enfin, j'aurais pas eu toute cette aventure autour de la pierre sonore. Voilà.
Tu es resté sur le même type de pierre?
Voilà, c'est ça. Je reste sur ce même type de pierre, le calcaire de Vignalement, qui a encore beaucoup, beaucoup de choses à explorer et à découvrir autour de cette pierre.
Quelle propriété a cette pierre?
En fait, elle est très sonore. Elle est composée de calcite, donc pratiquement pure, 99,5% de calcite. Donc, c'est la même composition que les stalactites et stalagmites dans les grottes. Et donc, elle a un son très cristallin, très clair. Et elle est assez homogène, en fait. Voilà. Donc, j'achète des plaques et donc je découpe telle longueur, ça fait telle note. Donc, il y a une propriété constante, en fait. C'est ça qui est bien dans cette pierre. Voilà. Donc, elle est assez pure. Thank you.
Tony Di Napoli sait faire chanter les pierres, mais son activité ne se résume pas au lithophone. Il continue à explorer les arts plastiques et il expose parfois ses sculptures, ses installations dans des espaces naturels soigneusement choisis.
C'est un travail que je faisais donc il y a un petit temps là. Donc c'était des installations avec des végétaux et de la pierre, parce qu'après être sorti des études, donc je travaille avec des végétaux, j'aime ce côté aussi éphémère de la matière végétale. C'est souvent des installations où je passe énormément de temps à réaliser. Donc des heures et des mois et des mois, donc pour des petits éléments. Par exemple, il y a des feuilles où j'ai tamponné notre pain sur des milliers de feuilles, ou des petits cubes comme ça, de 1 cm cube, ou à l'intérieur duquel j'ai placé un noyau de cerise. J'en ai fait 700. Donc c'est comme une pratique sur un même thème, enfin même mouvement aussi, donc qui prend des mois, et ensuite que je place au milieu extérieur et puis qui disparaît en fait, voilà. Donc j'aimais ce côté aussi éphémère de cette matière végétale que je retrouve un peu avec le son.
Ces deux
parties en fait de la pierre qui est très dense et qui est très pérenne, et puis le son qui est éphémère.
Thank you.
La performance de Tony Di Napoli, accueillie le 23 septembre dernier avec son lithophone par le Festival Crac à Paris. Je ne sais pas si la musique déployée par Tony Di Napoli est une musique affranchie, comme les aime le festival, mais ce que je sais, c'est qu'elle a permis au public venu à cette soirée du festival de s'affranchir du temps. Prochain concert solo de Tony Di Napoli, ce mercredi 4 novembre à Bourg-en-Bresse, dans le cadre des mercredis de la Sirène. Avec Tony Di Napoli, rapide tour d'horizon maintenant des pierres sonnantes dans le monde pour refermer cette émission.
Ben, il y a des pierres en Afrique, là, au Togo, enfin, le Pikankala qui est assez connu. Il y a en Corée donc un instrument qui s'appelle, inspiré d'un instrument chinois qui s'appelle Pianjing, qui est joué pendant les cérémonies de l'anniversaire de Confucius. Donc au Vietnam, oui. J'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps de pierres qu'on joue en Micronésie pour préparer une boisson en fait qui s'appelle sakao. C'est une boisson, c'est pas alcoolisé, c'est comme une drogue en fait qui est interdite en fait ici. Je ne sais plus le nom de cette plante botanique, mais et donc on prépare cette boisson donc en pilant une racine sur une grande plaque de pierre. Donc ils sont plusieurs dans des huttes, dans des maisons spéciales, donc ils sont plusieurs avec des rythmes, ils pilent et ça fait des sons incroyables. Donc j'ai découvert cette vidéo sur internet, j'ai contacté la personne qui a mis cette vidéo en ligne parce que bon, je présente des conférences aussi sur l'utilisation de la pierre sonore dans le monde entier, et puis donc je trouve que c'est extraordinaire, voilà. c'est...
Thank you. Et pour illustrer les propos de Tony Di Napoli, j'avais choisi les sonorités des lithophones Pichan Chalassi des Cabillés du Nord Togo. Cette émission se referme donc sur une invitation au voyage et c'est sans doute la meilleure façon d'entrer dans la nuit.